Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Seigneur, mes bien chers confrères, chers séminaristes, bien chères sœurs, mes bien chers frères, ce n'est pas sans une profonde émotion que je vous vois aujourd'hui réunis si nombreux à l'occasion de cet anniversaire sacerdotal. Vous avez pour beaucoup supporté la fatigue du voyage et certains d'entre vous viennent de continents lointains. Mais je pense que cette fatigue valait bien le déplacement. Car pourquoi sommes-nous aujourd'hui réunis, mes bien chers frères? Pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui? Pour fêter le sacerdoce catholique. Je pense que c'est le motif profond qui vous a déterminé à venir aujourd'hui. Oh oui, nous ne remercierons jamais suffisamment la Trinité Sainte et notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, d'avoir institué le sacerdoce éternel. Oui, notre Seigneur est essentiellement le médiateur, le prêtre. Et Dieu, qui s'est fait prêtre pour nous, pour offrir son sacrifice, un sacrifice digne à son Père, a voulu, dans sa sagesse divine, a voulu faire participer à son sacerdoce des hommes choisis par lui. Quel grand mystère de la charité divine, de l'amour de Dieu pour nous. Comme nous nous sentons indignes de porter cette grâce immense du sacerdoce. Oui, que Dieu soit béni, que soit béni notre Seigneur Jésus-Christ, que soit bénie aussi la Vierge Marie, car sans Marie, nous n'aurions pas eu le grand prêtre au sacerdoce duquel nous participons. Marie, mère du prêtre, mère du sacerdoce, oui, elle est bien notre mère à nous, prêtres. Que Dieu soit remercié et béni pour le sacerdoce qu'il a bien voulu me donner, me conférer. Pour ces années, ces 60 années sacerdotales, ces 42 années d'épiscopat, au cours desquelles, par sa sainte grâce indigne, j'ai pu donner des consécrations épiscopales. J'ai pu conférer de nombreuses ordinations sacerdotales. Je pense environ 500. J'ai pu célébrer la Sainte Messe, le Saint Sacrifice de la Messe, quotidiennement. J'ai pu donner notre Seigneur Jésus-Christ lui-même aux âmes, par les sacrements, et particulièrement par le sacrement de l'Eucharistie, par le Saint Sacrement de l'Eucharistie. Que de grâce, que de dons. Et je voudrais ajouter à cet hymne d'action de grâce auquel vous voulez bien vous associer, mes bien chers frères, je voudrais ajouter la traduction de la parole de l'oraison de l'offertoire qui me semble convenir parfaitement à cette circonstance que le prêtre récite tous les jours. Recevez, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, cette hostie immaculée que je vous offre, bien indigne serviteur, à vous, mon Dieu vivant et véritable, pour mes innombrables péchés, offenses et négligences, pour tous ceux qui sont ici présents, pour les fidèles chrétiens vivants et morts, pour que cette oblation serve à mon salut et au leur, pour la vie éternelle, ainsi soit-il. Voilà la prière d'oblation de l'hostie que le prêtre récite tous les jours au Saint-Autel. Quelle magnifique prière! Oui, devant ce mystère sublime du sacerdoce, nous ne pouvons pas ne pas nous sentir bien indignes et bien pauvres. Mes chers confrères dans le sacerdoce, c'est vers vous que je me tourne pendant quelques instants. À vous surtout, bien chers amis, bien chers confrères, qui êtes chargés de la formation des futurs prêtres. Oh oui, faites-nous beaucoup de prêtres, beaucoup de saints prêtres, beaucoup de prêtres catholiques, ayant une foi profonde, ayant un désir de sainteté et désir d'être missionnaire. C'est ce que vous faites et je vous en remercie au nom de tous les fidèles qui sont ici présents et qui comprennent si bien la nécessité d'avoir des prêtres vraiment catholiques, vraiment d'autres Christ. C'est de cela dont vous avez besoin, n'est-ce pas, mes bien chers frères? Alors, que le bon Dieu vous donne la grâce, bien chers amis, de former beaucoup de prêtres et beaucoup de saints prêtres. Je me tourne aussi vers vous, mes bien chers confrères qui êtes dans la pastorale. C'est à vous de discerner les germes de vocation dans les cœurs des fidèles qui vous entourent, des jeunes gens qui vous entourent. Vocation aussi pour les sociétés religieuses. À vous, par conséquent, que le bon Dieu donne la grâce aussi de vous préoccuper, de rechercher les âmes que le bon Dieu s'est choisies pour devenir prêtre. Et participer aussi d'une manière indirecte au sacerdoce par la vie religieuse. Quant à vous, mes bien chers frères, vous, parents chrétiens, vous êtes le sanctuaire dans lequel se forment les vocations sacerdotales. Vous êtes le sanctuaire dans lequel se forment les vocations religieuses. Sans vous, que ferions-nous? Où trouverions-nous les vocations de prêtres, les vocations de religieux et de religieuses? Alors je vous supplie, gardez ce sanctuaire loin, oh oui, bien loin de toutes les influences délétères, de toutes les influences mauvaises de ce monde. Ah, ne laissez pas pénétrer le monde dans vos foyers. Que vos foyers soient vraiment des annexes de vos paroisses, de vos églises. Que les enfants n'aient devant les yeux que des images édifiantes et non pas des images qui peuvent corrompre leurs âmes pour la vie, pour toute leur vie, éloigner de leurs yeux tout ce qui peut corrompre leur cœur, afin que dans vos foyers, le bon Dieu se choisisse des âmes d'élite. Rien de plus beau qu'un prêtre dans une famille, rien de plus beau qu'une vocation de religieux ou de religieuse dans une famille. C'est une protection pour toute la famille, pour les frères et sœurs. N'en doutez pas. Et c'est pourquoi, au cours de cette sainte messe, nous allons prier tous ensemble, n'est-ce pas, pour que le bon Dieu fasse en sorte que le sacerdoce catholique et que les vocations religieuses continuent. Continuent. malgré les assauts du monde et de l'enfer, contre les bonnes vocations, contre le sacerdoce catholique. Qu'est-ce que serait une église sans prêtre? L'église qui peut être encore une église catholique qui n'aura bientôt plus que des adapts, comme l'on dit maintenant, dans le langage moderne. Assemblée de prêtres dans l'absence du prêtre. Assemblée dominicale dans l'absence du prêtre. Quelles que peuvent bien être ces assemblées. Ce n'est plus le sacrifice de notre Seigneur renouvelé sur l'autel auquel vous participez et auquel nous participons tous. Non, l'Église ne doit pas être, l'Église catholique n'est pas une Église d'adapte. L'Église catholique est une Église de prêtres catholiques. Sans prêtres catholiques, il n'y a plus d'Église catholique. Et il ne peut y avoir de prêtres catholiques sans évêque catholique. Nous aurions pu, peut-être, comme vous le savez, avoir, après les conversations romaines, un évêque. Mais quel eût été cet évêque, puisque l'on nous demandait qu'il ait le profil désiré par le Vatican? Qu'est-ce que cela veut dire? Sinon que cet évêque fut un évêque conciliaire, un évêque qui avait l'esprit du concile, l'esprit de Vatican II. Et c'est précisément pour nous protéger de cet esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, qui n'est pas l'esprit catholique, que nous avons décidé de faire ces chers quatre évêques catholiques afin de transmettre à ceux qui viendront et aux générations de séminaristes le sacerdoce catholique. Et ainsi, vous êtes assurés que les prêtres continueront à vous enseigner et enseigner à vos enfants la vraie foi catholique et vous transmettre la grâce par les vrais sacrements et par le vrai saint sacrifice de la messe. Et à cette occasion, eh bien, chers frères, je voudrais vous dire quelques mots de la situation actuelle à l'intérieur de l'Église. Si l'on me posait la question, mais comment est-il possible que l'Église catholique, du temps de Pie XII jusqu'à Pie XII, se soit muée en une Église libérale et moderniste? Comment cela est-il possible? Eh bien, chers frères, vous êtes suffisamment au courant de l'histoire du Concile, on vous l'a suffisamment expliqué, vous avez lu des livres qui parlent de ces sujets, malheureusement douloureux, tristes pour nos cœurs de catholiques. Nous avons senti une rupture, un éloignement du passé, un éloignement de la tradition, un éloignement des prédécesseurs, des papes qui ont fait le concile. Eh bien, parmi les nombreux faits qui ont émaillé l'histoire du concile, je voudrais seulement relever par une réponse brève le fait suivant. Ce qui a pesé sur la désorientation de l'Église, car c'est bien une désorientation, sur le changement complet de l'esprit qui animait l'Église en un esprit libéral, ce qui a pesé sur l'avant-concile, le concile et le post-concile, c'est le secrétariat de l'unité des chrétiens. Trois livres viennent de paraître très instructifs à ce sujet. La vie de Mgr Bonini, dans un énorme livre, fait par lui-même, autobiographie, mais qui a été terminé après sa mort, un livre sur le cardinal Béat, énorme livre également, montrant toute l'influence du cardinal Béat avant le Concile, pendant le Concile et après le Concile. Et enfin, une vie du cardinal Villot, qui également montre les orientations du cardinal Villot et les influences que le cardinal Villot a eues dans le Concile et après le Concile. Et cela nous montre qu'il y a eu une volonté ferme, de changer l'esprit de l'Église, de faire cet aggiornamento, cette mise à jour de l'Église, d'ouvrir les portes de l'Église désormais à tous ceux qui n'ont pas notre foi, de leur donner l'impression qu'il n'y a pas de différence entre eux et nous. C'est un changement radical dans la position de l'Église. Avant le Concile, et personnellement j'en ai bien l'expérience, nous avons été envoyés en mission au-delà des mers. J'ai passé 30 ans en Afrique et nos chers Gabonais qui sont ici en sont les témoins. 30 ans en Afrique, pourquoi faire? Mais pour convertir les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ, pour convertir les âmes à l'Église, pour faire rentrer des âmes dans l'Église par le baptême catholique. Qu'a fait Saint-Pierre après son premier sermon à Jérusalem? Il a baptisé 4000 personnes baptisées parce qu'il savait que par le baptême, il constituait l'Église. Et que désormais, tous ceux qui voudraient entrer dans l'Église et dans la voie du salut et suivre notre Seigneur Jésus-Christ, participer au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, au sang rédempteur du divin Sauveur, devaient être baptisés catholiques. C'est ce que l'Église a fait pendant 20 siècles. Tout à coup, on lui dit non, non, il faut maintenant dialoguer, il ne faut pas convertir, il faut respecter l'opinion de chacun. Il ne faut pas leur donner l'impression qu'ils sont dans l'erreur. Alors, où est la mission? Où est la mission de l'Église? Et ce changement radical a été obtenu par les pressions de groupes qui particulièrement étaient membres du secrétariat de l'unité des chrétiens. D'ailleurs, si nous réfléchissons quelques instants, pourquoi un secrétariat pour l'unité des chrétiens? N'était-ce pas la congrégation de la propagande, c'est-à-dire de la propagation de la foi, qui était chargée de porter la foi à tous ceux qui ne l'avaient pas? C'est la congrégation de la propagande, de la foi, qui était chargée d'envoyer les missionnaires à travers le monde pour convertir toutes les âmes, quelles qu'elles soient. Païens, animistes, athées, bouddhistes, musulmans, protestants, la propagation de la foi était chargée d'envoyer les missionnaires pour ramener à l'intérieur de l'Église, par le baptême catholique, toutes ces âmes égarées. Pourquoi, à côté de la propagation de la foi, instituer comme une nouvelle congrégation qui désormais prendra simplement des contacts d'amitié avec toutes les fausses religions et avec toutes les fausses idéologies? Et c'est cela dont meurt actuellement l'Église. Elle ne mourra pas, évidemment. Vous en êtes les témoins et vous en êtes les acteurs, c'est vous qui quitte l'Église, c'est vous qui serez l'Église, c'est vous qui continuez l'Église par la foi que vous maintenez et par la sainteté de l'Église que vous continuez, c'est vous. Mais sinon, nous pourrions nous demander où va aller notre Sainte Église catholique. Le cardinal Béat, avant le Concile, a parcouru tout le monde entier, réunit les épiscopats pour leur demander de faire en sorte que ce concile soit un concile œcuméniste. Je ne parle pas de concile œcuménique, le concile est toujours œcuménique, mais œcuméniste, c'est-à-dire qui fasse l'union entre toutes les religions. Ça n'est pas possible. Cela est contraire à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il nous est impossible, dans la situation actuelle, tant que ce secrétariat sera soutenu et encouragé par le souverain pontife, eh bien, cela montrera que désormais, les membres de ce secrétariat peuvent continuer leur action destructrice de l'Église et destructrice du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Monseigneur Billy Brandt est suffisamment connu pour savoir que c'est précisément son rôle d'aller partout et de prendre des contacts avec qui que ce soit. Plus personne n'est éloigné de l'idéologie de l'Église, de la foi de l'Église. Monseigneur De Smet, secrétaire du secrétariat d'unité des chrétiens, a été celui qui a soutenu pendant le Concile la défense du thème de la liberté religieuse. Monseigneur Bonini faisait partie du secrétariat de l'unité des chrétiens. C'est Monseigneur Bonini qui a détruit la liturgie et qui a remplacé la vraie liturgie de la Sainte Messe et des sacrements par cette nouvelle liturgie dont on ne sait pas où finira l'évolution. Toujours en changement. Alors, devant cette situation, il est bien certain qu'il est impossible pour nous de pouvoir avoir des contacts suivis avec Rome, parce que jusqu'à présent, Rome demande que si nous recevons quoi que ce soit, quelque indulge que ce soit, pour la Sainte Messe, pour la liturgie, pour les séminaires, quoi que ce soit, nous devons signer la nouvelle profession de foi qui a été rédigée par le cardinal Ratzinger au mois de février dernier, et cette profession de foi contient explicitement l'acceptation du Concile et de ses conséquences. Alors, il faut savoir ce que nous voulons. C'est le Concile et ses conséquences qui ont détruit la Sainte Messe, qui ont détruit notre foi, qui ont détruit les catéchismes, qui ont détruit le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans les autres sociétés civiles. Comment pouvons-nous l'accepter? Voilà, mes bien chers frères, la situation actuelle. Alors, devant cette situation, qu'est-ce que nous devons faire? Garder la foi catholique. Garder la foi catholique. La protéger par tous les moyens. Vous avez, dans l'inventaire des livres qui sont exposés à la salle de lecture, de vendre des livres, vous avez beaucoup de livres désormais qui sont à votre disposition pour que vous approfondissiez le sens de la crise que nous subissons et pour vous aider à garder la foi. De nouveaux livres viennent d'apparaître, le livre du père Marsillac et le livre de Don Guillou. Le livre de Don Guillou en particulier est fait sur le canon de la messe, le canon romain de la messe, et la différence qu'il y a entre le canon de toujours et le nouveau canon. Livre très précieux, très intéressant et très instructif. Et puis, nous avons réédité certains livres très précieux, comme le petit livre de Jésus-Christ, roi des nations, par le père Philippe, non pas le père Philippe dominicain, mais le père Philippe Rédemptoris, qui vivait au début du siècle, et qui a fait ce petit livre admirable dans le style d'un catéchisme sur Jésus-Christ, roi des nations. Un livre que nous avons réédité tellement ce livre est rempli des extraits des encycliques des papes qui montrent quelle était la foi de nos ancêtres, la foi des papes qui ont précédé le Concile, qui est incompatible avec ce qu'on nous enseigne actuellement dans l'Église. La neutralité des États, la laïcité des États, la laïcisation des sociétés civiles, chose inadmissible. Notre Seigneur ne peut plus régner dans les sociétés. Il n'est plus le maître des sociétés depuis quand? Est-ce que c'est pas lui qui en est le créateur? Il n'a plus le droit de régner. Alors, protégez votre foi, entretenez votre foi par des lectures. Vous savez, maintenant, je ne peux pas citer toutes les revues, tout ce qui, grâce à Dieu, a été suscité par des âmes ferventes et intelligentes qui ont compris la nécessité d'aider les fidèles à garder la foi catholique. Mais vous les connaissez. Je citerai seulement, si vous permettez, le Monde et Vie, qui a été ferme dans sa position vis-à-vis des sacres des évêques. Et puis, je pense que à travers Radio Courtoisie, nous pouvons aussi, grâce à Dieu, faire passer notre message et faire passer le message de la tradition. Je pense que ce sont là des moyens précieux, sans compter toutes les éditions, éditions de Fidélitaire, éditions de Chiré en Montreuil, éditions de Dismas en Belgique. Enfin, je ne peux pas tout citer, mais désormais, vraiment, se sont levées des âmes généreuses qui ont voulu écrire, parler en faveur de la tradition et défendre notre foi catholique. Alors nous devons profiter de cette prolifération bienheureuse de ceux qui veulent nous aider à demeurer catholiques. Et puis ce n'est pas tout, il ne faut pas seulement défendre notre foi. Nous devons la professer. Voici la conclusion du serment antimoderniste de Saint Pie X. Puissions-nous répéter souvent ces paroles. Je garde fermement et garderai jusqu'à mon dernier soupir la foi des pères en ce qui concerne le don de la vérité qui est, a été et sera toujours dans l'épiscopat qui succède aux apôtres, non pas dans le sens que la vérité doive s'adapter à la culture de chaque génération. Je répète, non pas dans le sens que la vérité doive s'adapter à la culture de chaque génération, mais que la vérité absolue est immuable. Voilà ce que dit le concile, le serment antimoderniste de Saint Pie X. Mais que la vérité absolue et immuable, prêchée dès l'origine par les apôtres, ne soit jamais ni crue ni comprise dans un autre sens. Voilà ce que Saint Pie X nous demandait et demandait à tous les prêtres de prêter comme serment sur l'Évangile afin de garder la foi de toujours, la foi des apôtres. Nous n'en avons pas d'autre. C'est celle que nous professons, c'est celle que vous professez, c'est celle que vous professez dans les petits catéchismes que vous transmettez à vos enfants. Oh oui, gardez bien les anciens catéchismes. Et si d'aventure, quelques familles se trouvaient trop isolées pour être prises en charge par un de nos prêtres et par des gaudropètes, qu'elles s'adressent à nos sœurs de Saint-Michel-en-Brenne qui font un catéchisme de leur correspondance et qui peuvent ainsi instruire les familles par du vrai catéchisme. Elles ont maintenant 800 abonnés, et j'espère qu'elles en auront toujours davantage pour permettre à la foi de continuer pour ceux qui sont éloignés de nos prêtres. Et enfin, nous devons garder la sainteté, la grâce du bon Dieu, et cela nous ne pouvons pas sans Jésus-Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit notre Seigneur, rien, rien. Par conséquent, c'est par son sacrifice, par sa croix, par sa participation à son sang, que nous recevons la grâce du bon Dieu dans tous les sacrements, mais particulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie, évidemment. Alors que nous soyons fidèles à la messe de toujours, au sacrement de toujours, et ainsi nous garderons la grâce dans nos cœurs, et nos âmes seront transformées et prêtes à aller se rendre au rendez-vous du bon Dieu, prête pour l'éternité, prête pour la vie éternelle. Je dirai encore deux mots, je m'excuse d'être un peu long, mais je dirai deux mots encore de la situation internationale. Il me semble qu'il y a là une réflexion à faire pour nous et une conclusion à tirer devant les événements que nous vivons actuellement, événements qui ont vraiment quelque chose d'apocalyptique. Vous le savez, ces événements, invasion des religions, dans nos pays, et particulièrement l'islam, invasion non seulement en France, invasion en Angleterre, invasion en Belgique, invasion en Allemagne. Vous savez qu'il y a 2 ans, 100 000 Turcs ont défilé dans les rues de Munich en poussant des slogans contre l'Allemagne et contre le christianisme. 100 000 Turcs ont défilé dans les rues de Munich. Voilà des faits qui sont symptomatiques. C'est cela à quoi nous sommes voués si nos gouvernements ne prennent pas garde et laissent la chrétienté envahie par l'islam. Ce n'est pas pour rien que Saint Pie V et les autres papes ont voulu arrêter la marée de l'islam qui aurait déjà fait disparaître la chrétienté autrefois. Et puis, autre chose surprenante, c'est tous ces mouvements auxquels il faut dire que nous ne comprenons pas toujours parfaitement, des choses extraordinaires qui se passent derrière le rideau de fer et à travers maintenant le rideau de fer. Nous ne devons pas oublier, à l'occasion de tous ces événements, ni, je dirais, les prophéties qu'ont faites les sectes maçonniques et qui ont été publiées par Pie IX, par le pape Pie IX. Ils ont fait allusion à un gouvernement mondial et à la suggestion de Rome aux idéaux maçonniques. Ils ont fait des allusions claires, il y a de ça plus d'un siècle, publiées par Pie IX, par l'intermédiaire de M. Crétineau Joly. Et puis, nous ne devons pas oublier non plus les prophéties de la Très Sainte Vierge. La Très Sainte Vierge nous avertit, s'il n'y a pas de conversion de la Russie, si le monde ne se convertit pas et ne prie pas et ne fait pas pénitence, le communisme envahira le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons très bien que le but des sectes secrètes, c'est un gouvernement mondial avec des idéaux maçonniques, c'est-à-dire les droits de l'homme, c'est-à-dire l'égalité, la fraternité et la liberté, comprises dans un sens antichrétien, contre notre Seigneur, que ces idéaux, n'est-ce pas, seraient défendus par ce gouvernement mondial, une espèce de socialisme à l'usage de tous les pays, et ensuite un congrès des religions. Ce congrès des religions comprenant toutes les religions, y compris la religion catholique, qui serait au service du gouvernement mondial, comme les orthodoxes russes sont au service du gouvernement des soviets. Il y aurait 2 congrès, le congrès politique universel qui dirigerait le monde et ce congrès des religions qui viendrait au secours de ce gouvernement mondial, qui serait évidemment à la solde de ce gouvernement. Nous risquons d'arriver à ces choses-là. Nous devons nous y préparer. Alors devant cela, que faire? Eh bien, ceux qui résistent à cette destruction du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est à cela qu'ils veulent arriver, à ruiner définitivement et totalement, c'est ce que disait Léon XIII dans son encyclique sur les francs-maçons, ils veulent détruire de fond en comble les institutions chrétiennes. Voilà leur but. Eh bien, ils y arrivent. Ils y arrivent. Alors nous devons les reconstruire. Devant cette destruction, nous devons nous lever, et c'est ce que vous faites. Et je vous en félicite, je ne vous en féliciterai jamais assez, je suis sûr que je suis l'interprète de Dieu, de notre Seigneur, de la Très Sainte Vierge, pour vous dire continuez, continuez à faire ce que vous faites. Partout s'élèvent des écoles, des prieurés, des paroisses, ça se multiplie dans tous nos pays, partout. Les églises se sont acquises pour la tradition. Il faut reconstruire le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde qui disparaît, monde chrétien qui disparaît. Vous direz, c'est la lutte, Monseigneur, c'est la lutte de David contre Goliath. Eh oui, je sais bien, c'est la lutte de David contre Goliath, mais David a eu la victoire sur Goliath. Et comment a-t-il eu la victoire sur Goliath? par un petit caillou limpide qu'il est allé chercher dans le torrent. Quel est ce caillou que nous avons, nous? Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous dirons comme nos ancêtres vendéens qui ont versé leur sang pour leur foi, n'est-ce pas? Nous n'avons d'autre honneur que l'honneur de Jésus-Christ. Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser Jésus-Christ. Voilà ce qu'ils ont chanté en allant à la mort pour défendre leur Dieu. Eh bien, nous aussi, chantons cela avec courage, avec cœur. Oui, nous n'avons qu'un amour, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous n'avons qu'une peur, c'est de l'offenser. Et nous demanderons à la Très Sainte Vierge de nous aider dans ce combat. Et pour cela, dans quelques instants, après la Sainte Messe, nous nous réunirons, évêques ici présents, les cinq que nous sommes, pour redire la consécration du monde et de la Russie au cœur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie. Persuadés que la Très Sainte Vierge, notre bonne mère, qui elle est toujours à la pointe du combat, est elle qui nous encourage, est elle qui vient sur la terre, nous demander de lutter, de ne pas avoir peur, que Jésus est avec nous, qu'elle est avec nous. Alors nous lui demanderons, en nous consacrant, nos familles, nos personnes, nos cités, nos pays, nos patries, au cœur immaculé de Marie, nous sommes persuadés qu'elle viendra à notre secours et fera en sorte que nous la rejoindrons un jour dans la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Mesdames, Messieurs, comme la sonou ne marche pas, il est évident que c'est moi qu'on envoie à l'abattoir. Mais j'y vais de bon cœur parce que c'est pour Monseigneur Lefebvre. Monseigneur, malgré tout ce qui a été dit ces jours derniers et encore ce matin, ce n'est pas seulement pour vos 60 années de sacerdoce que tout ce grand peuple français s'est rassemblé au Bourget. C'est parce que nous avons, et c'est parce que ce grand peuple a pour vous de la reconnaissance, de l'admiration. Et si vous voulez un mot encore plus fort pour moi, de la tendresse. Monseigneur, ce que vous avez fait dans cette dernière partie de notre siècle est extraordinaire. Vous avez redonné l'espérance aux croyants qui ne croyaient plus et aux non-croyants vous avez donné à travers la France française les chemins qui mènent à la foi. Monseigneur, vous avez fait plus encore. Vous avez fait comprendre qu'il n'y avait pas de message religieux sans résonance politique. Et vous avez fait comprendre qu'il n'y avait pas de politique sans message religieux. Monseigneur, je suis ému et heureux de participer aujourd'hui à votre anniversaire et d'avoir assisté comme à un événement à cette grande fête populaire que fut la messe de ce matin. Et je voudrais vous remercier au nom de tout ce que j'ai appelé un jour dans un journal vos paroissiens de la main gauche. Je voudrais vous remercier parce que vous avez fait comprendre à beaucoup, à énormément de Français, qu'il n'y a pas d'avenir sans respect du passé et qu'il n'y a rien à tradition. Du fond du cœur, pour les miens, pour tout ce que je peux représenter dans ce pays, pour tout le travail que j'ai pu faire, pour tous les sacrifices que j'ai pu apporter, pour tout le souvenir français que j'incarne, je vous remercie.
Monsieur l'abbé Duchalard, responsable du courrier de Rome et de Sissi Nono, va vous adresser la parole.
Monseigneur, n'étant pas un orateur, je laisse aux autres le soin d'exprimer avec les mots appropriés, s'il y en a, toute notre gratitude et les raisons de notre gratitude. Pour notre part, je parle au nom du courrier de Rome et de Sissi Nono. Nous vous manifestons cette infinie reconnaissance aujourd'hui par le numéro spécial de Sissi Nono et du courrier de Rome sur votre œuvre et sur la cause que vous défendez. Nous savons par vos fidèles et constants encouragements, combien vous tenez à cette publication fondée par Don Francesco Putti, prêtre que vous avez connu et pour lequel vous avez su apprécier sa clairvoyance, sa fermeté dans le combat et sa grande bonté. Fidèle au fondateur du journal et à vos encouragements, nous pensons l'année prochaine étendre la publication à la langue anglaise et à la langue allemande. Mais en ce jour d'action de grâce, nous avons voulu faire un peu plus pour vous manifester notre reconnaissance. Sissi Nono, le courrier de Rome et Renaissance catholique se sont unis pour vous offrir un rocher, c'est-à-dire un surplis pour les prélats, de valeur artistique, un travail au point de venir, qui a aussi une valeur historique, puisqu'il a appartenu à un cardinal et pape qui est par l'Église, un rocher qui a appartenu et a été utilisé par le cardinal Giuseppe Sarto pape que vous aimez, Monseigneur, et que vous avez su aussi nous faire aimer, pape d'une grande foi et qui a été souvent comparé à Saint Pie V, son immédiat prédécesseur dans la liste des papes canonisés. Pasteur a écrit de Saint Pie X, « Quand il s'agit de la foi, il devient un autre homme. Il est inébranlable. » Monseigneur, ce que vous nous avez donné, c'est cette foi inébranlable. Permettez enfin, Monseigneur, de vous remettre un autre cadeau. Au nom de nos fidèles d'Albano et de Madame Tangari, le drap de lin où a reposé Saint Pédis juste après sa mort. Cette relique est accompagnée de ces quelques mots que je vous traduis de l'italien. Ô très aimé et vénéré archevêque, aujourd'hui, vous êtes l'unique prélat qui nous permet de vivre intégralement notre foi catholique. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour l'Église et pour nous. Merci, Monseigneur.
Les Alsaciens, Monseigneur, vous offrent deux beaux tableaux, un de la Sainte Vierge et un autre du Mont Saint-Odile. Maintenant, nous donnons la parole à un autre grand journaliste qui mène le combat au choc. Je veux parler de Monsieur Marc Dem.
Je redescends un peu des hauteurs où les précédents orateurs nous ont élevés pour rappeler d'une façon familière quelques souvenirs. Je vous ai connu, Monseigneur, à Dakar. Vous étiez alors mon archevêque. Vous l'êtes resté d'ailleurs d'une certaine façon. Le souvenir que j'ai de vous à cette époque est celui d'un évêque entreprenant qui a développé considérablement les missions, construit des églises, fondé des écoles, fait venir des religieux et des religieuses et ouvert des séminaires. Cela marchait tambour battant. Quand vous avez fait sortir de terre le collège de Anne, près de Dakar, de terre, ou plus exactement des sables, c'était sur un projet grandiose. Ce collège fait encore l'orgueil du Sénégal aujourd'hui, avec 2000 élèves et un très haut niveau scolaire. Dans cette première pierre, dans la première pierre de fondation du collège de Anne, étaient écrits ces mots. Je crois que peu de gens les connaissent. Cela remonte à 1949. Il était écrit: ce collège est destiné à recevoir sans distinction de race tous les enfants dont les parents feraient confiance aux principes de l'Église en matière d'instruction et d'éducation, pour que s'étende le règne de Dieu dans toute l'Afrique occidentale. Vous voyez que Mgr Lefebvre n'était pas raciste, ne l'est toujours pas d'ailleurs, et que son but en créant un collège, c'était la mission au sens habituel du mot, c'est-à-dire qui consiste à évangéliser les populations. Et puis, les années ont passé. Deuxième souvenir, je vous avais perdu de vue, vivant dans d'autres continents. Et le concile s'est ouvert. Et c'est là que Mgr Lefebvre a été mis au monde. Plus exactement, c'est là que Le Monde, le journal Le Monde, a commencé à parler de lui. Ce n'était pas forcément un honneur. C'était au début du concile, et si vous vous souvenez, ceux qui ont l'âge d'avoir connu cette époque, Mgr Lefebvre était présenté comme le grand méchant loup dans beaucoup de médias. À cette époque, je m'étonnais qu'un évêque aille ainsi contre la vie de tous les autres, sur certains points tout au moins, et qu'il fût vraiment, comme on le présentait, un fanatique, un savonarole, un sectaire, un passéiste, et je me dis, ça ne peut pas être le même. Et c'était bien le même, mais il n'était rien de tout cela. Tout cela, c'était son image médiatique, qui a, pendant une vingtaine d'années, prévalu auprès de beaucoup de gens. Mais nous qui le connaissons, nous savons que ce n'est pas de cette façon-là que Mgr Lefebvre se présente en réalité. Et sur ce point, et j'en finirai avec cela, sur ce point, On a souvent, quand il n'y a plus d'arguments qu'il porte, on a souvent cette question qui est posée, mais comment peut-on avoir raison contre tout le monde? D'abord, contre tout le monde, ce n'est pas tout à fait vrai. Si je regarde le nombre de personnes qui sont ici aujourd'hui, Mgr Lefebvre a quand même des gens qui sont d'accord avec lui. Mais admettons, prenons cette proposition, peut-on avoir raison contre tout le monde à ce sujet, puisque après tout nous sommes à la fin d'un banquet, je me permettrai de raconter une histoire de Marius. Non pas le Marius de Marseille, mais celui du Liban, dont j'ai oublié le nom. C'est lui qui couvre toutes les bonnes histoires qu'on raconte au Liban, quand on a le temps, entre deux bombes, d'en raconter. Je l'appellerai, puisque j'ai oublié son nom, Charbel. Et voici l'histoire, qui n'est pas d'aujourd'hui. Charbel est mort. Il a été très malade, maintenant il est mort. On le met donc dans un cercueil qui reste ouvert à la mode du pays pendant la cérémonie de funérailles. Et pendant cette cérémonie, tout à coup, Charbel ouvre un œil et puis s'aperçoit qu'il est dans l'église. Il voit les voûtes de l'église au-dessus de lui, il voit qu'il est couché dans quelque chose et il comprend qu'on est en train de l'enterrer. Alors, vous comprenez son émotion. Il remue, il s'agite, il gigote et il se dit « ce n'est pas possible ». Mais il a un suaire qui l'enveloppe, qui lui enveloppe les jambes et les bras. Il ne peut pas beaucoup bouger. Alors il relève quand même la tête et il aperçoit le sacristain qui est à côté de lui en train de chanter d'une voix de stentor. Et il appelle le sacristain et lui dit « Mais Joseph, Joseph, qui est-ce qu'on enterre ?»« Mais tu sais bien Charbel, ça ne peut être que toi. » « Mais, Joseph, je ne suis pas mort !» Alors, le sacristain le regarde d'un air sévère et lui dit « Écoute, reste un peu tranquille. Tu vois bien que le curé, il croit que tu es mort. Le vicaire croit que tu es mort. Les chantres croient que tu es mort. Le médecin a signé le permis d'inhumer. Alors, tu ne vas pas me dire que tu as raison contre tout le monde ?»
Soyez, s'il vous plaît, un peu silencieux. Il reste encore quelques intervenants. Et tout de suite, un élève de l'école Saint-Michel, qui représente toutes nos écoles, tout l'avenir de la catholicité.
Monseigneur, lorsque Dieu demanda à Isaïe de parler en son nom au peuple d'Israël, le prophète chercha tout d'abord à se soustraire à ce rôle redoutable en disant « Seigneur, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Mon Seigneur, je ne suis bien sûr pas prophète, mais simplement un des nombreux élèves issus des écoles de la fraternité Saint-Pédis. En effet, malgré l'œuvre immense des séminaires et des prieurés, vous n'avez pas voulu négliger les écoles. Vous avez pourtant souvent avoué, Monseigneur, qu'on vous avait forcé la main pour prendre cette initiative. Et vous vous souvenez encore de cette atmosphère de lutte dans laquelle cette décision fut prise. Des parents n'allaient-ils pas jusqu'à vous menacer ? Si vous n'ouvrez pas d'école, Monseigneur, vous serez responsable devant Dieu de l'âme de nos enfants. Que de difficultés à cette époque pour trouver une école vraiment catholique. Si les jeunes filles étaient suffisamment pourvues à cet égard, les garçons, quant à eux, se trouvaient presque totalement démunis. Vous avez donc fondé des écoles qui transmettent une éducation conforme à la plus pure tradition de l'Église. Éducation que vous avez vous-même reçue à l'Institut du Sacré-Cœur à Lille. Nos prêtres au collège nous ont souvent répété ce premier souci que vous leur avez inspiré, que cette jeunesse demeure attachée pour toujours à notre Seigneur, à la Vierge Marie et à toute la foi de l'Église. Nous nous rendons bien compte, moi et mes camarades, à quel point notre formation spirituelle nous est facilitée dans vos écoles et combien elle serait moins aisée dans d'autres établissements. Et voilà pourquoi nous avons tous voulu y être admis. Bien sûr, sans doute, les exigences de la vie chrétienne nous paraissent parfois austères en comparaison de la vie que nous pourrions avoir dans d'autres établissements. Mais quel exemple ne reçoit-on pas dans vos écoles, où les professeurs, profondément convaincus de leur foi catholique, la vivent tout simplement comme une chose allant de soi. Quel exemple aussi chez nos propres parents, qui n'hésitent pas à accomplir de lourds sacrifices pour nous assurer une éducation chrétienne. Ils font partie de ces vrais catholiques, convaincus comme vous que l'école chrétienne est une nécessité absolue pour prolonger, compléter, affermir l'œuvre de la famille. On juge l'arbre à ses fruits, nous dit notre Seigneur. L'idéal que vous proposez en fondant ces écoles se réalise-t-il? Eh bien, les faits sont là pour le prouver. 12 années seulement d'existence ont suffi à susciter des dizaines de vocations sacerdotales et religieuses. Certaines de vos écoles sont même dirigées par d'anciens élèves, devenus prêtres par vos mains. Mais bien sûr, tous ne sont pas appelés à cette sublime vocation. Il faut aussi des laïcs, vraiment chrétiens, qui seront le fer de lance de la Renaissance catholique. Vos écoles les suscitent également. Dans cette salle, j'ai reconnu des anciens camarades qui aujourd'hui poursuivent leurs études ou bien sont entrés dans la vie professionnelle et dont certains même ont fondé un foyer. Monseigneur, nous recevons dans vos écoles les trésors de la tradition chrétienne et nous regardons comme un honneur d'employer et de développer ces dons reçus de Dieu. Malgré notre jeunesse et notre inexpérience, nous voulons reprendre le flambeau de tous les soldats qui ont donné leur vie pour la France, de toutes ces générations de chrétiens qui ont formé l'âme de la fille aînée de l'Église, de tous ces prêtres et religieux qui ont fait rayonner dans le monde entier l'idéal missionnaire de notre Seigneur. Nous voulons ainsi répondre à votre appel de la croisade, lancé lors de votre jubilé en 1979, il y a donc juste 10 ans. Nous tous, qui avons tant reçu de vous, dans vos écoles, nous vous promettons de rester fidèles. Fidèles d'abord à l'héritage de nos pères, aux traditions de la France. Fidèles ensuite à la vraie foi et à la messe de toujours. Fidèles aux vertus et aux exemples des saints. Fidèles enfin à la bienheureuse Vierge Marie, à notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il règne dans nos cœurs, dans nos familles et dans la société.